Les fiancés, chapitre 27. Déjà plus d'une fois, nous avons eu occasion de parler de la guerre, en ce moment très active, qui s'était allumée au sujet de la succession de Vincent Gonzague, deuxième du nom. Mais cette occasion s'est toujours présentée lorsque nous étions fort pressés d'ailleurs, de sorte que nous n'avons jamais pu toucher ce point que par ricochet et en passant. Il devient cependant indispensable, pour l'intelligence de notre récit, que l'on ait à cet égard quelques notions plus circonstanciées. Ce sont des faits que connaissent les personnes instruites dans l'histoire, mais comme, par un juste sentiment de nous-mêmes, nous devons supposer que notre livre ne sera lu que par des ignorants, il ne sera pas mal que nous donnions en quelques mots un aperçu de ces événements à ceux pour qui ce peut être nécessaire. Nous avons dit qu'à la mort de ce duc, son plus proche héritier dans l'ordre naturel de succession, Charles Gonzague, chef d'une branche cadette transplantée en France, où il possédait les duchés de Nevers et de Rethel, était entré en possession de Mantoue. Et nous ajoutons maintenant de Montferrat que cette hâte avec laquelle nous écrivions nous avait fait laisser au bout de la plume. La cour de Madrid, qui voulait à tout prix, et c'est encore une chose que nous avons dite, exclure de ses deux fiefs le nouveau prince à qui il venait d'échoir, mais qui pour l'exclure avait besoin d'une raison, car les guerres faites sans raison seraient des guerres injustes, s'était déclarée pour les droits que prétendait avoir sur Mantoue un autre Gonzague, Ferrante, prince de Guastalla. Sur le Montferrat, Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie, et Marguerite Gonzague, duchesse douairière de Lorraine. Don Gonzalo, qui était de la famille du grand capitaine Gonzalve de Cordoue, surnommé le grand capitaine, et en portait le nom, et qui avait déjà fait la guerre en Flandre, désireuse outre mesure de diriger les opérations d'une guerre en Italie, était peut-être celui qui poussait le plus à la faire entreprendre. Et en attendant, interprétant les intentions et devançant les ordres de son gouvernement, il avait conclu, avec le duc de Savoie, un traité d'invasion et de partage du Montferrat. Traité dont il avait ensuite facilement obtenu la ratification du comte-duc en lui présentant comme fort aisé l'acquisition de Casal, qui était sur le point le mieux défendu de la portion assignée au roi d'Espagne dans ce partage. Il protestait néanmoins, au nom de son souverain, ne vouloir occuper le pays qu'à titre de dépôt, jusqu'au jugement que devait rendre l'empereur. Et ce prince, tant par les suggestions du dehors que par des motifs qui lui étaient propres, avait refusé l'investiture au nouveau duc en lui enjoignant de remettre en séquestre entre ses mains les états qui faisaient le sujet du litige et qu'il remettrait lui-même à qui de droit après avoir entendu les parties, injonction à laquelle le duc de Nevers avait refusé d'obtempérer. Celui-ci avait de son côté des amis puissants, le cardinal de Richelieu, le sénat de Venise et le pape, qui était, comme nous l'avons dit, Urbain VIII. Mais le premier, alors occupé du siège de La Rochelle et engagé dans une guerre avec l'Angleterre, traversé d'ailleurs dans ses vues par le parti de la reine-mère, Marie de Médicis, qui, par certaines raisons à elle particulières, était contraire à la maison de Nevers, ne pouvait donner que des espérances. Les Vénitiens ne voulaient faire aucun mouvement, ni même se déclarer, tant qu'une armée française ne serait pas descendue en Italie. Et tout en aidant sous main le duc autant que cela leur était possible, ils se tenaient, avec la cour de Madrid et le gouverneur de Milan, sur la ligne des protestations, des propositions, des exhortations menaçantes ou pacifiques selon les circonstances. Le pape recommandait le duc de Nevers aux amis de ce prince, intercédait en sa faveur auprès de ses adversaires, faisait des projets d'accommodement. Mais pour ce qui était de mettre une armée en campagne, il ne voulait pas en entendre parler. Ainsi, les deux alliés pour l'offensive purent avec d'autant plus d'avantages commencer l'entreprise qu'ils avaient concertée. le duc de Savoie, était entré dans le Montferrat. Don Gonzalo s'était empressé de mettre le siège devant Casal. Mais il n'y trouvait pas toute la satisfaction qu'il s'était promise. Car il ne faut pas croire que, dans la guerre, tout ne soit que rose. La cour ne l'aidait pas selon ses désirs, ou même le laissait manquer des moyens de succès les plus nécessaires. L'allié avec lequel il opérait ne l'aidait que trop, c'est-à-dire qu'après avoir pris sa portion, il allait empiétant sur celle du roi d'Espagne. Don Gonzalo en enrageait plus qu'on ne peut dire, mais craignant, pour peu qu'il fît de bruit, que Charles Emmanuel, aussi actif en manœuvres secrètes, échangeant dans ses alliances que vaillant à la tête d'une armée, ne se tourna vers la France, il était obligé de fermer les yeux, d'avaler le désagrément et de se taire. Son affaire du siège allait mal, traînait en longueur, reculait quelquefois au lieu d'avancer, tant par la contenance ferme, vigilante, résolue des assiégés, que parce qu'il avait lui-même peu de monde, et, au dire de quelques historiens, parce qu'il faisait de nombreuses sottises. Sur quoi nous laissons la vérité là où elle est, disposés même que nous sommes, dans le cas où la chose serait réellement telle que les historiens la rapportent, à n'y rien voir que de fort heureux. Si, par là, il y a eu dans cette entreprise un peu moins d'hommes envoyés à l'autre monde ou privés de leurs membres, et même seulement, ceteris paribus, un peu moins de dommages au toit de la ville de Casal. Ce fut dans ces conjonctures qu'il reçut la nouvelle de la sédition de Milan et qu'il accourut en personne dans cette ville. Là, dans le compte qui lui fut rendu de ce qui s'était passé, il fut fait mention de la fameuse fuite de Renzo, opérée par rébellion, des faits vrais ou supposés pour lesquels il avait été arrêté, et l'on ajouta que cet individu s'était réfugié sur les terres de Bergame. Cette circonstance fixa l'attention de Don Gonzalo. Il était informé, d'autre part, qu'à Venise, on avait levé la tête en apprenant l'émeute de Milan, que, dans le principe, on y avait pensé qu'il serait par là contraint d'abandonner le siège de Casal, et que l'on continuait encore à le croire étourdi du coup et dans de grands soucis, d'autant plus qu'aussitôt après cet événement était arrivée la nouvelle, non moins désirée par messieurs de Venise que redoutée par lui-même, de la reddition de La Rochelle. Piqué au vif, et par amour-propre personnel, et comme homme d'État, de l'opinion où ces messieurs étaient sur son compte, il cherchait toutes les occasions de les convaincre, par voie d'induction, qu'il n'avait rien perdu de son ancienne assurance. Car dire tout simplement « je n'ai pas peur », c'est comme ne rien dire du tout. Un bon moyen, en pareil cas, est de jouer le mécontentement, de se plaindre, de réclamer. Et c'est pourquoi, lorsque le résident de Venise était venu lui faire sa visite et tâcher en même temps de lire sur son visage et dans son maintien ce qu'il avait dans l'âme, remarquez tout, c'est ici de la politique de cette vieille finaude, Don Gonzalo, après avoir parlé du tumulte assez légèrement et en homme qui apparaît à tout, fit, à propos de Renzo, le bruit que vous savez, et vous savez aussi ce qui en fut la suite. Son but ainsi rempli, il ne s'occupa plus d'une affaire aussi minime et, quant à lui, terminée. Et lorsque, assez longtemps après, la réponse lui parvint au camp devant Casal, où il était retourné et où il avait bien autre chose par l'esprit, il leva et remua la tête comme un ver à soie qui cherche sa feuille. Il fut un instant attaché de raviver dans sa mémoire cet incident dont il n'y restait plus qu'une ombre. Il se souvint du fait, eut une idée vague et fugitive du personnage, passa à un autre objet et ne songea plus à celui-ci. Mais Renzo, qui, par le peu qu'il avait entrevu, devait former toute autre conjecture que celle d'une si bénigne indifférence, n'eut pendant longtemps d'autres pensées, d'autres soins que de vivre caché. Il n'est pas besoin de dire qu'il brûlait du désir de faire passer de ses nouvelles aux deux femmes et de recevoir des leurs. mais deux grandes difficultés l'arrêtaient. La première était qu'il devait, pour cela, se confier à un secrétaire. Attendu que le pauvre garçon ne savait pas écrire, ni même lire, dans l'acception rigoureuse du mot. Et si, interrogé à ce sujet, comme vous vous en souvenez peut-être, par le docteur Azzeca Garbugli, il avait répondu affirmativement, ce ne fut point par vanterie et pour s'en faire accroire. Car il est vrai qu'il savait lire les caractères imprimés en y mettant un peu de temps. Mais l'écriture à la main est autre chose. Il lui fallait donc mettre un tiers au fait de ses affaires, lui révéler un secret dont il devait être si jaloux. Et dans ce temps-là, un homme sachant tenir la plume et à qui l'on put se fier ne se trouvait pas facilement. Surtout si l'on était dans un pays où l'on n'eût pas d'anciennes connaissances. L'autre difficulté était d'avoir un messager, un homme qui alla précisément vers le lieu où la lettre serait adressée, qui voulut s'en charger et se donner réellement la peine de la faire rendre. Toute chose qu'il n'était pas aisé non plus de rencontrer réunis dans le même homme. Enfin, à force de se retourner, de chercher, il trouva ce quelqu'un qui pouvait écrire pour lui. Mais ne sachant si les femmes étaient encore à Monza, ni où elles étaient, il jugea à propos de faire remettre la lettre pour Agnese dans une autre, adressée au père Cristoforo. L'écrivain se chargea de plus de faire rendre le pli. Il le remit à un particulier qui devait passer à peu de distance de Pescarenico. Celui-ci le laissa, en le recommandant de son mieux, dans une auberge sur la route et le plus près possible de l'endroit désigné. Ce pli étant destiné à un couvent, il y parvint, mais on n'a jamais su ce qu'ensuite il a pu devenir. Renzo, ne voyant point paraître de réponse, fit écrire une seconde lettre, à peu près semblable à la première, et qui fut incluse dans une autre, à l'adresse d'un de ses amis ou de ses parents à Lecco. On chercha un autre porteur, on le trouva. Cette fois, la lettre arriva à sa destination. Agnese courut à Maggianico, se la fit lire et expliquer par cet Alessio, son cousin, dont il a été parlé plus haut. Elle concerta avec lui une réponse qu'il mit sur le papier. On trouva moyen de l'envoyer à Antonio Rivolto au lieu de sa résidence. Tout cela pourtant moins vite que nous ne le rapportons. Renzo reçut la réponse et fit écrire. Bref, il s'établit entre ces deux personnes une correspondance qui, sans être rapide ni régulière, put cependant, à travers ces interruptions, n'être pas discontinuée. Mais pour avoir une idée d'un tel échange d'écrits, il faut un peu savoir comment ces sortes de choses se faisaient alors. Ou plutôt, comment elles se font, car je ne crois pas qu'en ce point il y ait eu grand changement depuis cette époque. Le paysan qui ne sait pas écrire et qui a besoin d'écrire cependant s'adresse à quelqu'un qui possède cet art, en le choisissant, autant que possible, parmi ceux de sa condition, parce qu'il n'ose pas envers d'autres ou ne se fie pas à eux. Il l'informe, avec plus ou moins d'ordre et de clarté, des antécédents et lui expose de la même manière les idées accouchées sur le papier. L'homme lettré comprend une partie du thème, devine à peu près le reste, donne quelques conseils, propose quelques changements, et dit « Laissez-moi faire ». Puis il prend la plume, met le mieux qu'il peut, sous une forme épistolaire, les pensées de l'autre, les corrige, les tourne d'une meilleure façon, charge sur certains points, éteint les faits sur d'autres, se permet jusqu'aux omissions, selon qu'il juge, par ses divers moyens, donner plus de perfection à son œuvre. Car on a beau faire, celui qui en sait plus que les autres ne veut pas être un instrument matériel dans leurs mains. Et s'il se mêle de leurs affaires, ce n'est jamais sans qu'il prétende y mettre un peu du sien. Malgré tout cela, notre lettré ne parvient pas toujours à dire les choses comme il le voudrait. Il lui arrive même, quelquefois, de les dire d'une façon toute différente. Et cela nous arrive bien, à nous autres qui écrivons pour nous faire imprimer. Lorsque la lettre ainsi composée arrive dans les mains du correspondant, si celui-ci n'a pas non plus grand usage de l'ABC, il la porte à un autre savant, de même calibre, pour se la faire lire et tirer au clair. Des difficultés s'élèvent sur la manière de l'entendre, parce que la partie intéressée, se fondant sur la connaissance qu'elle a des faits antérieurs, prétend que certains mots signifient une chose. Le lecteur, s'en tenant à son expérience dans la composition, soutient qu'ils en signifient une autre. Finalement, il faut que celui qui ne sait pas se mette dans les mains de celui qui sait et le charge de la réponse, laquelle, faite comme l'a été la première lettre, est ensuite soumise à une interprétation semblable. Que si, par-dessus le marché, le sujet de la correspondance est un peu délicat, s'il faut y traiter des affaires secrètes qu'on ne voudrait point laisser comprendre à un tiers dans le cas où la lettre viendrait à s'égarer, si, dans cette vue, on y apportait l'intention positive de ne pas dire les choses bien clairement, alors, pour peu que la correspondance dure, ceux entre qui elle a lieu finissent par s'entendre comme s'entendaient autrefois deux scolastiques après avoir disputé 4 heures sur l'entéléchie. Note du traducteur. Terme de la philosophie d'Aristote. Fin de la note. Pour ne pas prendre notre similitude plus près de nous, car nous ne voudrions pas nous faire donner sur les doigts. Or, le cas de nos deux correspondants était tout à fait celui que nous venons de dépeindre. La première lettre, écrite au nom de Renzo, roulait sur plusieurs sujets. D'abord, après un récit de sa fuite, beaucoup plus concis, mais aussi plus embrouillé que celui que vous avez lu, elle donnait quelques détails sur la position actuelle du jeune homme. Détails tournés de façon que ni Agnésée, ni son truchement, ne purent, à beaucoup près, y puiser de quoi se former à cet égard une idée claire et complète. Un avis secret, un changement de nom, la sûreté obtenue, mais la nécessité de se tenir caché, toutes choses peu familières par elles-mêmes à leur intelligence et qui, de plus, étaient dites dans la lettre en termes assez énigmatiques. Puis venaient des demandes pleines d'inquiétude, pleines de chaleur sur les aventures de Lucia, avec des mots obscurs et qui peignaient une vive douleur sur les bruits répandus à ce sujet et venus jusqu'aux oreilles de Renzo. Enfin, des espérances incertaines et éloignées, des projets jetés en avant pour l'avenir, et en attendant, la promesse et la prière, répétées à plusieurs reprises, de maintenir la foi jurée, de ne perdre ni patience ni courage, et d'attendre des temps meilleurs. Au bout d'un peu de temps, Agnésée trouva une voie sûre pour faire parvenir dans les mains de Renzo une réponse. Avec les 50 écus, que lui avait destiné Lucia. À la vue de tant d'or, il ne sut que penser. Et dans un étonnement et une incertitude qui ne laissaient pas accès dans son âme à la satisfaction, il courut chercher son secrétaire pour se faire expliquer la lettre et avoir la clé d'un mystère aussi étrange. Dans la lettre, le secrétaire d'Agnésée, à la suite de quelques plaintes sur le peu de clarté de celle à laquelle on répondait, racontait, avec une clarté à peu près égale, l'épouvantable histoire de cette personne. C'est l'expression qu'il employait. Et ici, il expliquait le fait des 50 écus. Puis il en venait à parler du vœu, mais par voie de périphrase, ajoutant, en termes plus directs et plus positifs, le conseil de mettre son cœur en paix et de n'y plus penser. Peu s'en fallut que Renzo ne s'attaqua à son interprète. Il tremblait, il frémissait d'horreur, de fureur, et pour ce qu'il avait compris, et pour ce qu'il n'avait pu comprendre. 3 ou 4 fois, il se fit relire le terrible écrit, tantôt croyant le mieux saisir, tantôt trouvant obscur ce qui lui avait paru clair à la première lecture. Et dans cette fièvre des passions qui le dévorait, il voulut que son secrétaire mît sur le champ la main à la plume et fît la réponse. après les expressions les plus fortes de terreur et de pitié sur les événements arrivés à Lucia, écrivez, poursuivit-il en dictant, que pour ce qui est de me mettre le cœur en paix, je n'en veux rien faire et ne le ferai jamais. Que ce ne sont pas des avis à donner à un garçon comme moi. Que quant à l'argent, je n'y toucherai pas. Que je le mets de côté et le tiens en dépôt pour la dot de la jeune fille. Que la jeune fille doit être ma femme. Que cette promesse dont on parle n'est rien pour moi. Que j'ai toujours entendu dire que la Sainte Vierge prend part à nos affaires pour assister les affligés, pour nous obtenir des grâces, mais non pour faire fâcher les gens et les faire manquer à leurs paroles. Que cela ne peut pas être. Qu'avec cet argent, nous avons de quoi nous établir ici. Que si, dans ce moment, je suis dans une position un peu embrouillée, c'est une bourrasque qui passera bientôt. Et autre chose semblable. Agnese reçut cette lettre, fit écrire de nouveau, et la correspondance continua de la manière que nous avons fait connaître.